penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver autour de cette émission dans laquelle ou par laquelle nous essayons de creuser un des aspects de notre foi. Alors la base de la révélation, c'est d'abord celle faite à Israël et puis en Jésus-Christ qui nous est donné dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. Mais ce mystère de la foi ne cesse de se déployer au cours de l'histoire. Et les premiers à l'avoir accueilli et creusé, les premiers après l'époque apostolique, c'est ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Alors pour nous parler de l'un des plus fameux d'entre eux, le grand saint Augustin, nous accueillons dans notre série de 4 émissions sœur Anne-Claire Favry, bonjour, qui va être en dialogue avec sœur Sarah.
Bonjour.
Qui était étudiante à l'IERP ou l'IURP en quelle année ?
En deuxième année.
Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite entamer le dialogue.
Très bien. Alors, sœur Anne-Claire, est-ce que vous pouvez nous dire qui était saint Augustin ?
Alors, saint Augustin, c'est un homme d'Afrique du Nord qui a vécu au fin du 4e, début du 5e siècle. Il est né à Tagaste. Tagaste, c'est l'actuel souk Arras, aux confins de l'Algérie et de la Tunisie, et qui se trouve à cette époque en Numidie, c'est-à-dire la province de l'Afrique romaine. Son père, Patricius, était un païen qui se convertira à la fin de sa vie sous l'influence de son épouse, Monica, que nous connaissons mieux sous le nom de Sainte Monique. Et sa mère, Sainte Monique, est chrétienne, fervente chrétienne, et elle initiera Augustin à la foi chrétienne, même si le jeune Augustin ne va pas forcément tout de suite rejoindre sa mère dans la foi qu'elle lui transmet. Voilà, Augustin donc reçoit bébé les rites du catéchuménat, mais pas le baptême. Il sera baptisé beaucoup plus tard, en 388, quand il sera revenu à la foi chrétienne reçue de sa mère.
Ça, du coup, c'est un peu étrange. Pourquoi il fait les rites du catéchuménat et qu'il finit pas... Enfin, quelque part, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il s'est arrêté en bon chemin.
Alors, en fait, à cette époque-là, on baptisait pas systématiquement les petits-enfants. Pourquoi ? Parce que c'était un petit peu le choix des familles. Il faut comprendre qu'on est dans une période de l'Église où nous ne connaissons pas encore la confession comme nous la connaissons aujourd'hui, le sacrement de réconciliation. Nous sommes encore dans la période où se pratique la pénitence publique, réitérable, non réitérable justement. Et donc on a tendance à préférer reculer le baptême de manière à ce que les personnes, j'allais dire, aient le temps de se poser dans une vie harmonieuse avant d'être baptisées, parce que justement, si on tombe après le baptême, ben, c'est un peu compliqué. Et c'est le choix qu'a fait Monique, surtout qu'elle n'a pas dû être très poussée par son époux, Patricius, pour faire baptiser ses enfants, et donc en particulier Augustin. Donc assez rapidement, en fait, Augustin va suivre une éducation classique. Il va se montrer très brillant, même si il racontera dans les confessions qu'il n'est pas franchement attiré par l'école. Hein. Il parlera même de ses souvenirs d'enfance douloureux dans sa scolarité, en tout cas la première partie de sa scolarité. Son père Patricius est un notable de sa ville, un petit notable alors les petits notables à cette époque-là, eh bien ils avaient beaucoup d'obligations mais pas forcément beaucoup de revenus, c'était pas des gens très fortunés, et en fait Patricius va mettre un petit peu toutes ses ressources dans l'éducation de son fils, peut-être parce qu'il a senti que c'était une figure exceptionnelle quand même, c'est quelqu'un de très doué, malgré ses résistances. Et donc en fait, Augustin va commencer des études qui vont être l'occasion d'une réflexion, mais il va assez vite s'éloigner en fait de la foi de sa mère dans cette période de sa jeunesse.
Du coup, est-ce que c'est ses études qui l'ont éloigné de cette foi ?
Ses études, peut-être pas. Je crois qu'il est surtout insatisfait. Il porte des questions en lui, nous y reviendrons dans une prochaine émission. Il porte des questions en lui auxquelles il ne trouve pas de réponse. Et du coup, eh bien, il va s'éloigner. Puis après, quand il va devenir adolescent, il va partir à la ville pour étudier. Hein. Il va partir à Carthage. Carthage, c'est la grande ville. Hein. Carthage, à l'époque, il va dire lui-même combien Carthage le bouleverse, en fait. Et à ce moment-là, il va commencer à mener une vie... J'irais comme un adolescent qui quitte le giron des parents. Il va prendre un petit peu ses libertés, en particulier dans ses relations avec des filles. Bon, c'est un jeune. Ça, je dirais, il n'y a rien de... On en a fait souvent quelque chose d'un peu exagéré. On en fait la figure du dévoyé. C'est pas franchement le cas.
C'est choquant c'est choquant qu'un saint ait eu un passé douteux. Pour certains, peut-être.
Oui, c'est peut-être un petit peu rassurant. Oh, en même temps, c'est quelque chose... Je pense que c'est une mauvaise lecture des confessions, en fait, où il parle, effectivement, de toutes ces difficultés qu'il a rencontrées, en fait. Mais on les a beaucoup grossies.
Oui, voilà. Ça, parce qu'au final, ce qu'on en sait, c'est ce que Saint-Augustin dit lui-même dans ses propres confessions.
Exactement. Sur l'enfance, l'adolescence, la jeunesse d'Augustin, finalement, nous n'avons comme source uniquement cette œuvre extraordinaire qu'est les confessions, que sont les confessions, où il va raconter. Il y a une part de récit dans les confessions, mais en fait le récit porte une autre intention. Et les choix qu'il va faire des séquences de sa vie dans les confessions, ça ne va pas être de souligner forcément le plus brillant de lui-même. Puisque ce qu'il va souligner surtout, c'est comment la grâce de Dieu l'a rejoint. Mmh. Et du coup, eh bien, il va souligner ceux qui avaient besoin d'être sauvés en lui avant que la grâce de Dieu le rejoigne.
Et du coup, le fait que pendant son enfance, sa jeunesse, il n'ait pas reçu cette foi de sa mère, est-ce que c'est quelque part que Monique a échoué à lui transmettre ce qui la faisait vivre ?
Je pense qu'à un moment, elle a dû penser qu'elle avait échoué. Elle a été réconfortée, Saint-Augustin le rapporte aussi dans les confessions où la figure de Monique est très importante. Elle a dû penser à un moment dont elle avait échoué, elle a été réconfortée à la fois par l'évêque qui l'a réconfortée, mais aussi par une vision qui lui promettait en fait le retour à la foi de Saint-Augustin, vision qu'elle a un peu interprété avec beaucoup de fermeté, puisque quand elle l'a raconté à Augustin, il lui disait mais non, parce que c'était, elle l'a vu elle s'est vue sur une règle de bois, et Augustin qui était sur la même règle qu'elle, et donc elle raconte ça à Augustin, toute contente, et Augustin lui dit bah oui, c'est toi qui vas me rejoindre sur la règle où je suis actuellement. Elle dit pas du tout, c'était pas ça la vision, c'était que tu me rejoignais sur la règle où je suis. Elle a cette certitude intérieure qu'un jour Augustin reviendra. Et de fait, la vision s'est accomplie au-delà de ses espérances.
Elle n'a pas perdu l'espoir. Ok, et du coup, dans les confessions, il parle beaucoup peut-être de sa conversion. Est-ce qu'il y a quand même une partie sur son enfance ? Est-ce qu'on sait concrètement comment il a grandi ?
Oui, les premiers chapitres en fait suivent la chronologie, les premiers livres, suivent la chronologie de sa vie. Donc, il va nous raconter sa petite enfance. Alors, il raconte même quand il était bébé. Alors, évidemment, on peut pas raconter quand on est bébé. Il en a tout à fait conscience. Hein, il n'est pas naïf à ce point. Donc, en fait, il raconte la petite enfance à partir de ce qu'il observe des bébés.
Ah, pas de ce que sa mère lui aurait transmis.
Non, c'est l'observation qu'il fait sur le comportement des tout petits. Et puis après, dans les chapitres suivants, il va raconter effectivement des éléments de son enfance, de ses amitiés, de ses aventures, de ses malheurs scolaires en particulier. Et on va le voir en fait grandir dans les confessions jusqu'à son arrivée à Carthage en tant qu'étudiant. Et puis ensuite, tout son chemin de conversion.
Oui. Donc une vie plutôt normale en soi, qu'on peut prendre en modèle. Enfin, quelque part, on peut s'identifier à lui par ce...
Oui, je pense qu'aujourd'hui, lire les confessions aujourd'hui, on peut tout à fait s'identifier à lui parce que finalement, ce qu'il décrit de ses passages dans des chemins de traverse, en fait, c'est très actuel. Et on peut tout à fait se retrouver en fait dans cet homme qui, on le verra dans une autre émission, est un chercheur de vérité qui, à travers tout ça finalement, toutes ces hésitations de l'adolescence, de la jeunesse, et finalement il cherche la vérité, il cherche le bien, il cherche sa voie aussi.
Merci beaucoup à Sœur Anne-Claire et puis à Sœur Sarah qui l'interview aujourd'hui. Je dis pour nos auditeurs... que Sœur Anne-Claire va animer une session de 2 jours consacrée précisément à Augustin, et vous l'avez sous-titré « Témoin d'aujourd'hui, une lecture actualisée des confessions ». C'est précisément ce que vous venez de nous dire. Elle aura lieu les jeudis 17 et vendredi 18 novembre. Et si vous voulez la suivre soit sur place, mais vous pouvez aussi la suivre à distance, un site, ou plutôt une adresse, l'IERP, IERP@ict-toulouse.fr, ICT pour Institut catholique de Toulouse. Voilà, merci beaucoup, Sœur Anne-Claire, merci Sœur Sarah, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.